et Franck Bouchard du Camo pour personnes handicapées est dans nos studios pour en parler. Bonjour Franck. Et donc, comment en fait se planifie ce passage de l'école à la vie adulte, à la vie active?
Comment se planifie? Disons que c'est une pratique qui est en place, disons, depuis quelques années au Québec. Peut-être pas partout, mais comment ça se met en place? Disons que c'est une pratique qui doit se planifier quelques années auparavant. L'idée, effectivement, vous parliez, donc, les jeunes vont terminer bientôt l'école. On entend souvent dire également les parents, souvent dans les médias, ça ressort l'inquiétude de dire, mon enfant termine à 18 ans, 21 ans, qu'est-ce qui se passe après? Il n'y a plus rien pour lui. Où je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? C'est un peu pour essayer un peu d'éviter cette espèce de trou peut-être qui va arriver après 21 ans, qu'on essaie de plus en plus de mettre en place cette planification-là, de la transition vers la vie active, la vie professionnelle souvent, mais aussi dans d'autres dimensions, d'autres sphères de vie, que ce soit les loisirs ou autres. Mm-hmm. Donc, à l'école, effectivement, avec des jeunes qui peut-être ont besoin d'accompagnement, on parle de déficience intellectuelle, par exemple, ou troubles de l'autisme, etc. Donc, des jeunes qui auraient davantage besoin d'accompagnement pour préparer cette sortie de l'école-là, parce que peut-être qu'ils ne poursuivront pas d'études post-secondaires, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc, de plus en plus, dans les écoles, on essaie de mettre en place cette planification-là. Quelques années avant la fin, 15 ans, à partir de l'âge de 15 ans, par exemple, peut-être on va recommencer à regarder c'est quoi un peu le souhait que le jeune aurait par rapport à sa vie adulte, une fois adulte, c'est quoi un peu ses rêves, ses aspirations, et essayer donc de coller à ça un projet, de planifier quelque chose vers la sortie une fois qu'il aura terminé ses études. Qu'est-ce qui pourra se passer? Est-ce qu'on peut le préparer à occuper un emploi? Est-ce qu'on peut préparer aussi d'autres sphères de sa vie? S'il veut aller en appartement, par exemple, mais comment ça se planifie, ça aussi? Est-ce qu'il est en mesure de le faire? Mm-hmm. Le budget, tout ça. Donc, un peu, comment le rendre davantage autonome aussi dans cette vie-là, une fois adulte? Donc, c'est un peu ça l'idée de la TEVA, de la transition école vie active, de faciliter ce passage-là vers la vie adulte.
Et justement, la TEVA, est-ce que c'est une approche qu'on retrouve déjà dans les écoles, par exemple? Qui, dans l'école, en fait, peut amener cette approche? Est-ce que c'est le conseiller en orientation? Est-ce que ça va être une travailleuse sociale qui est sur place? Comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est déjà actif dans l'école?
Effectivement, idéalement, c'est avec le professeur. Enfin, c'est avec l'équipe école, en réalité. Donc, c'est à la fois l'enseignant, les enseignants et le conseiller d'orientation, d'autres personnes qui gravitent autour du jeune à travers son plan d'intervention. Souvent, les élèves en situation d'handicap dans les écoles vont avoir un plan d'intervention qui va permettre de planifier un peu ses besoins en termes de support pour faire ses études. Mais à l'intérieur de ce plan d'intervention-là, arrive un moment donné où on peut placer une espèce, cette transition-là. Comment je vais préparer maintenant la sortie de l'école, non seulement par rapport à ses besoins pour réussir ses études, mais par rapport aussi à des besoins qu'il aura pour poursuivre ces études-là. Donc, c'est dans les écoles, et je dis dans les écoles parce que c'est pas nécessairement partout encore que c'est instauré, cette pratique-là. C'est pas une obligation légale, par exemple. Donc, mm-hmm. C'est sûr que ça relève un peu, à quelque part, un peu d'une certaine volonté des milieux scolaires de le mettre en place. Donc, à partir du besoin, donc on voit l'élève, son besoin, et c'est autour de ça que va se mettre en place cette pratique-là de planification.
Et comment est-ce que ça se concrétise, par exemple? Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'un cas type? Comment ça pourrait se passer, justement, cette transition, les ponts qui sont créés pour soit le secteur de l'emploi après ou soit même d'autres types d'études qu'on veut poursuivre?
Effectivement. Si on regarde, par exemple, un jeune qui aurait une déficience intellectuelle, par exemple, légère, on souhaitera donc qu'il puisse peut-être terminer ses études. Est-ce qu'il est en mesure de le former pendant qu'il est au secondaire? Souvent, on va l'orienter peut-être vers des chemins particuliers parce qu'il n'a pas nécessairement les capacités pour étudier jusqu'à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires, mais on va l'orienter vers de la formation qui est plus préparatoire pour l'emploi. À partir de ça, on va regarder par rapport à ses compétences, qu'est-ce qui serait, et ses envies aussi, ses intérêts, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire comme type d'emploi, qu'est-ce qu'on peut préparer comme compétences à travers des stages, à travers de la formation dans l'école, qu'est-ce qu'on peut aussi préparer par rapport à son besoin d'autonomie. S'il décide d'aller en appartement, est-ce qu'il sera en mesure de le faire tout seul ou ça sera plus dans un type d'appartement supervisé? À ce moment-là, mm-hmm. est-ce qu'on fait fait des liens avec le centre de réadaptation qui souvent va offrir un peu ce support-là pour permettre à la personne de vivre en appartement. Par rapport à l'emploi, bien là, on va faire des liens, on va tisser des liens, peut-être plus vers la fin, avec un service spécialisé de MEDEF qui va peut-être l'accompagner pour l'intégration à l'emploi, s'il y a besoin de subventions, des choses comme ça. Si c'est pour d'autres sphères de la vie par rapport au déplacement dans les transports en commun, est-ce qu'il est en mesure de le faire? Est-ce qu'on peut lui donner le support pour qu'il puisse être en mesure de se déplacer par lui-même dans les transports en commun, ou alors c'est plus vers le transport adapté? Donc, c'est toutes ces dimensions-là qu'on va essayer d'organiser avec le jeune, avec ses parents, bien sûr, parce qu'il faut que les parents soient aussi impliqués dans tout ça. Ça fait partie de l'équipe, le parent, bien évidemment. Donc, comment on va essayer de planifier cette sortie-là en allant chercher les différents acteurs qui seront au moment opportun, mis à profit dans cette transition-là? C'est sûr qu'au départ, à 15, 16 ans, on va plutôt davantage travailler à l'autonomie à l'école même, mais c'est plus vers 18, 19, 20 ans, peut-être qu'on va aller chercher des acteurs pour préparer la sortie du jeune comme tel. C'est un portrait idéal. C'est pas tout le temps, évidemment, c'est pas tout le temps simple que ça fonctionne aussi bien, pour toutes sortes de raisons. Le jeune lui-même, par rapport à ses capacités, est-ce qu'il a toutes les capacités qui lui permettraient de faire ça? Par rapport aussi à la souplesse des milieux aussi, c'est pas tout le temps évident, des fois, d'aller chercher les acteurs au bon moment. Ça dépend. Est-ce qu'il y a des subventions disponibles? Ça aussi, faut pas se mettre la tête faut pas jouer à l'autruche, là. Des fois, il peut y avoir des problèmes de disponibilité financière. Si on le fait pas, le jeune peut-être va risquer, lui, arriver à 20-21 ans et ne pas avoir d'avenir qui sera possible pour lui, où on n'aura pas pensé à planifier ça. Ça peut être aussi le cas si la personne est en mesure de faire des études postsecondaires, aller au cégep, aller en formation professionnelle, c'est de préparer c'est quoi qui va t'attendre vers le cégep en termes de soutien, en termes de support, qu'est-ce qui existe, y a-t-il des ressources financières aussi à ma disposition? Donc là, c'est peut-être un autre cas de figure, mais ça aussi, ça peut se planifier aussi dans ce contexte-là.
Et parfois même, si on doit changer de ville, si on doit s'éloigner, donc première fois en appartement, etc., et toute la dimension, effectivement, du transport, de l'accès au logement prend vraiment beaucoup d'importance. Type de choses auxquelles on pense peu quand on est encore justement au secondaire puis qu'on est plus préoccupé par ces examens de maths qui s'en viennent.
Effectivement, c'est pas tout le temps une réalité que le jeune lui-même va prendre conscience, et c'est pour ça que c'est important que l'équipe école peut-être puisse avoir cette conscience-là, amener petit à petit le jeune et ses parents vers l'idée, préparer le jeune pour cette poursuite-là, parce qu'il peut y avoir des besoins. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes qui ont une situation de handicap qui sont au secondaire vont avoir besoin d'un support tel quel, que la TVA. Mais pour certains jeunes qui auraient peut-être plus de besoins d'accompagnement, plus de besoins de support, je pense que c'est important d'avoir ce réflexe-là.
À ce moment-là, est-ce qu'il y a justement des organismes ou des partenaires, même au niveau gouvernemental, qu'on doit informer de nos démarches, sachant que parfois, ça ne se règle pas nécessairement en 3 mois, là?
Effectivement. D'abord, pour informer, disons, si le parent, par exemple, la porte d'entrée, c'est l'école. Donc, c'est sûr que c'est avec la direction de l'école, avec l'enseignant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Est-ce qu'il y a des outils qui existent? Est-ce qu'il y a une pratique déjà en place? S'il y en a une, tant mieux. S'il n'y en a pas, comment la mettre en place? Parce qu'il existe des outils aussi qui sont accessibles pour les enseignants qui peuvent aller utiliser. Comme je disais, ce n'est pas une obligation légale, donc il n'y a pas nécessairement un outil diffusé par le ministère de l'Éducation, par exemple, qui dit, voici le kit TVA. Il n'y a pas nécessairement ça, mais il y a des outils dans différentes régions qui ont été développés que les enseignants peuvent aller chercher sur Internet, c'est disponible, donc différents trucs comme ça. Donc, c'est vraiment à partir de l'école que doit se préparer cette chose-là, et c'est la responsabilité au travers du plan d'intervention de l'école aussi, il y a une obligation de mettre en place des choses avec le plan d'intervention. Donc, c'est peut-être par ce biais-là aussi de dire, je veux préparer la sortie de mon jeune, comment je vais faire en tant que parent, et comment, voici avec l'école, comment vous pourriez procéder.
Quels sont les principaux obstacles que la TVA permet de contourner?
Je dirais, le principal obstacle, c'est peut-être l'absence, des fois, d'informations que les gens peuvent. On voit encore récemment, je disais que des jeunes qui étaient rendus au postsecondaire ne savaient pas qu'est-ce qui existait, les services possibles, les soutiens financiers. Donc, l'obstacle un peu de l'ignorance, peut-être, de services qui existent. Si les milieux scolaires se sont préparés adéquatement, sont allés chercher cette information-là, le parent qui, peut-être, ne sait pas tout ce qui existe, c'est pas tout le temps évident de repérer ça, même sur Internet, lui, il y aura accès à l'information qui peut-être ne l'aurait pas si on ne mettrait pas en place ce processus-là. L'accès vers les ressources spécialisées de main-d'œuvre, vers les mm-hmm. centres d'adaptation. Donc, si les gens dans l'école ont déjà des liens avec des éducateurs, avec des conseillers en emploi, etc., ben là, c'est plus facile de préparer l'accès aux services par rapport à ça. Donc, ça permet d'éviter peut-être de passer à côté de choses qui existent ou d'être en attente de services parce que là, oups, il n'y a pas de place, vous êtes arrivé trop tard, il faut que vous attendiez un an. Mais alors que si on s'est pris avant, ben là, on n'a pas de délai. On risque moins d'avoir un délai pour accéder à des services.
Mm-hmm. En terminant, justement, jusqu'à quel stade la personne est accompagnée?
Je dirais que l'accompagnement se fait tant que la personne n'a pas quitté l'école. Donc, c'est sûr Le système scolaire. On va accompagner le jeune jusqu'à maximum de ses 21 ans pour le secteur jeune. Donc, c'est sûr qu'on va l'accompagner jusqu'à ce qu'il quitte le secteur jeune.
Question qui vient juste d'arriver dans ma tête. Est-ce que ça peut être une approche qu'on peut utiliser, par exemple, pour planifier un déménagement? Donc, on se retrouve dans une autre commission scolaire, par exemple.
Ça peut être quelque chose aussi à prévoir. Si le jeune dit, ben là, je dois changer de région, je planifie, ben effectivement, c'est de faire des liens avec l'autre commission scolaire. C'est quoi les services qu'on a? Comment ça marche? Est-ce qu'il y a des services dans les écoles? Si j'ai besoin de support X, Y, Z, qui va me les fournir? Y a-t-il des écoles mieux préparées que d'autres, etc.? Donc, ça aussi, ça peut être effectivement une façon de préparer une transition vers une autre école qui est quand même de la vie active aussi.
Exactement. Donc, qui est toujours, c'est ça, sans nécessairement aller dans une étape plus loin dans le cheminement. Tout de même, c'est à prévoir. Merci beaucoup, Franck Bouchard du CAMO pour les personnes handicapées, d'être venu nous parler de cette approche TEVA, transition de l'école vers la vie active.
J'arrête le dernier mot à dire. C'est pour les gens qui recherchent d'informations, l'Ordre des conseillers d'orientation a mis sur pied un site web qui s'appelle l'espace virtuel pour les parents, dans lequel on trouve beaucoup d'informations pour justement aider les jeunes dans leurs études au niveau du secondaire. Dans ce site-là, il y a une section qui s'adresse aux élèves à besoins particuliers et dans la section des élèves à besoins particuliers, il y a une section TEVA. Donc, peut-être qu'on pourra mettre le lien sur votre site web pour trouver toute l'information et c'est assez complet. C'est quoi la TEVA, comment ça marche, puis toutes sortes aussi d'outils qui existent. Donc, on peut trouver à partir du site de l'Ordre des conseillers toute l'information sur la TEVA.
On va mettre le lien sur la page de l'émission. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.